Les émissions de Radio Courtoisie arrivent chez vous. Les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous, partout. Désormais, dans vos voitures, à vélo, en transport en commun, elles vous accompagnent partout. Dans vos téléphones, dans vos poches, 24 heures sur 24. Radio Courtoisie avec vous, politique, société, religion, littérature, histoire, culture, 24 heures sur 24. Nos paroles s'envolent sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. La liberté, ça n'a pas de prix et c'est gratuit.
Restons courtois. Arthur de Vatrigan.
Et oui, vous êtes toujours dans Restons courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie chaque jour de 17h30 à 19h30. Et je sais ce que vous dites, chers auditeurs, mais comment ça, Rémi Carlu n'a pas fait sa chronique? Qu'est-ce qui se passe? Tout fout le camp, c'est comme ça que les Anglais vont encore gagner la guerre. Eh ben non, on a juste décalé la chronique de Rémi Carlu qui est maintenant.
Et cher Rémi,
vous allez nous parler d'euthanasie.
Et j'avais prévu de vous parler de Curtis Yarvin, cet intellectuel américain qui fait la une de l'incorrect ce mois-ci, mais un saint prêtre me rappelait dimanche dernier combien plus important était le combat qui se menait actuellement en nos contrées. Car vous n'êtes pas sans savoir, chers amis, que les sénateurs planchaient ces derniers jours sur la proposition de loi euthanasie. C'est ni plus ni moins le combat d'une génération qui se joue, sans doute même celui d'une civilisation. Je ne sais pas si on se rend tout à fait compte de ce qui est en jeu. Nos représentants s'apprêtent, par un simple vote, sans jamais avoir fait campagne sur le sujet lors des élections qui les ont vus élire, sans que les Français ne soient véritablement emparés de ce débat, ceci dans un contexte de crise institutionnelle et politique inédit qui n'offre pas la légitimité suffisante pour légiférer sur un tel sujet, nos représentants s'apprêtent, disais-je, dans ce cadre déplorable donc, à renverser le plus vieil interdit humain. Celui-là qui est inscrit dans le cœur de tout homme, notamment révélé par Dieu le Père à Moïse sur le mont Sinaï au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. « Tu ne tueras point ». Cette loi morale sacrée a, depuis 3500 ans au moins, irradié par cercles concentriques, elle a aboli les sacrifices, elle a fait plier les tribus et renverser des empires pour gagner jusqu'aux extrémités de la terre. C'est cet interdit-là que nos petits députés voudraient abolir sans trembler.
Alors pourquoi le débat sur l'euthanasie n'a pas trouvé l'écho qu'il aurait dû ?
Ce qui est frappant dans ce débat, c'est effectivement la dissymétrie entre l'importance de la question et la faiblesse de son écho. Reconnaissons certes que les intellectuels ont à peu près fait le travail, que de nombreux livres de qualité ont été publiés pour couvrir tous les angles de la question, que certains députés et sénateurs même se sont levés pour dire avec force leur opposition à ce texte. Pourtant, l'euthanasie n'a jamais vraiment quitté l'arène et le calendrier étroitement politique pour devenir un véritable débat de société pendant 6 mois ou 1 an, sur lequel chaque Français aurait par la force des choses été sommé de prendre position. Aucun parti qui fasse tout son possible pour alerter l'opinion, aucune association de premier plan créée pour fédérer les oppositions, aucun grand rassemblement ou événement d'ampleur. C'est comme si le débat était resté confiné à une petite élite parisienne. Regardez les grandes manœuvres entreprises en 2013 au moment des manifs pour tous et comparez, on se demande, et c'est une question terrible, si tout a vraiment été fait pour empêcher la légalisation de l'euthanasie.
Et comment l'expliquez-vous ?
Ben, je l'explique d'au moins deux manières. La première, c'est l'efficacité proprement diabolique du langage du choix. Cette loi nous permettrait de maîtriser la mort, dernier point sur lequel a chopé la volonté boursouflée du moderne. Surtout, elle offrirait le choix à certains sans rien retirer aux autres. On ne pourrait donc pas rationnellement s'y opposer. Cette manière de présenter l'euthanasie comme un ajustement technique de l'offre législative au champ des possibles de notre volonté permet de désamorcer le débat sans même qu'il ait lieu. Au fond, l'euthanasie ne concernerait que ceux qui seraient favorables. Cette idée scandaleuse est bien sûr fausse. La légalisation de l'euthanasie obligera des médecins à tuer, et donc à rompre le serment d'Hippocrate, provoquant par là une révolution copernicienne de la médecine pour faire du soignant un prestataire de service sommé de satisfaire les desiderata de ses patients clients. Surtout, la légalisation de l'euthanasie va renverser notre regard envers les plus vulnérables, leur et nous suggérant qu'un tel état ne vaut plus la peine d'être vécu. Légaliser l'euthanasie, c'est instiller chez toute personne en détresse l'idée qu'elle est devenue un fardeau et que ce serait pur égoïsme de vouloir vivre encore. À l'heure du wokisme qui devait dénoncer toutes les oppositions, c'est un imaginaire validiste auquel le progressisme veut donner force de loi. Cette idée fausse d'un choix sans conséquence pour les autres s'appuie sur une anthropologie tout aussi fausse, celle d'un homme monade vivant seul et pour lui-même, mu par les seules lumières de sa raison. La vie vraie, sentie et vécue n'a évidemment rien à voir avec cette mythologie libérale qui est utilisée pour détricoter notre dentelle civilisationnelle.
Et quelle est votre seconde explication ?
Eh bien, ma seconde thèse est plus stratégique. On avait dit des manifs pour tous qu'elle signait le retour au premier plan de la droite conservatrice et catholique dans le sillage d'un Patrick Buisson, par exemple. Malgré la défaite, les manifs avaient rassemblé plus d'1 million de personnes et recueilli près de 700 000 signatures. Elles avaient transformé un projet de loi en un véritable sujet de société, elles avaient dicté l'agenda médiatique et politique, obtenu des gains non négligeables dans le texte final et accouché d'une jeune génération d'intellectuels qui peupleraient bientôt des revues nouvelles. 13 ans plus tard, on doit malheureusement conclure qu'au lieu d'un retour du conservatisme français, les manifs en furent le champ du cygne. À ce sursaut d'espérance, la succession d'échecs qui a suivi, Fillon, PMA pour tous, idéologie LGBT et trans, a apporté l'estocade. Avec CNews et tous ses magazines, la droite a rarement détenu une telle force de frappe, mais entre-temps, le populisme était venu reconfigurer le clivage droite-gauche sur d'autres problématiques. On défendrait donc avec insistance les racines chrétiennes de la France, mais les combats bioéthiques, eux, combat chrétien s'il en est, ne valait plus le coup d'être mené. Impuissants, les conservateurs semblent comme condamnés à un exil intérieur dans un monde qui leur est devenu incompréhensible et réciproquement. Pendant ce temps, le char moderne avance, il roule avec fureur, il dévale la pente du progrès, renverse tous les obstacles sur son passage et répand dans son sillage cette culture de la mort dénoncée par Saint Jean-Paul II dans Evangelium Vitae.
Y a-t-il tout de même une chance que le texte soit finalement rejeté ?
Bien, vous n'êtes pas sans savoir que c'est ce qu'ont fait hier les sénateurs en deuxième lecture. Notons que c'est aussi la Chambre haute qui avait, il y a quelques semaines en Grande-Bretagne, fait échouer un projet de loi euthanasie. Petite parenthèse institutionnelle, tout ceci donne à réfléchir sur l'importance de la représentation territoriale, particulièrement en France, sur le rôle du Sénat. Désormais, c'est une commission mixte paritaire qui va tenter, mais échouer, de concilier les points de vue avant que l'Assemblée nationale tranche de manière définitive. Alors, un rejet final, il semble possible, mais franchement, peu probable. Entre les deux premiers votes à l'Assemblée, à nombre de votants constants, le taux d'approbation de la loi est passé de 60% à 57%. Pour l'essentiel, il s'agissait d'abstentionnistes passés dans le camp du contre. Mais il restait encore 73 voix d'écart. Il faudra qu'une partie substantielle d'entre elles passe donc dans le camp de l'abstention ou du rejet, une tâche qui s'annonce difficile sans être impossible. Pour le reste, il y a encore la Providence, dont les voix, vous le savez, cher Arthur, sont impénétrables. Quel moyen trouvera-t-elle cette fois pour balayer la loi ? Sera-ce une nouvelle dissolution ? Un problème de calendrier parlementaire ? Ou bien une nouvelle épidémie ? On ne sait pas encore. D'ici là, il nous reste à prier pour que la France reste agréable à ses yeux et à agir, même si la cause nous semble perdue, comme nous y enjoint la belle formule du philosophe espagnol Donoso Cortés, la lutte est l'accomplissement d'un devoir et non le résultat d'un calcul.
Merci beaucoup, cher Rémi Carlu. Il est l'heure d'accueillir notre Deuxième invité, David Bisson. David Bisson, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes maître de conférence à l'ICES, l'Institut catholique de Vendée, spécialiste de philosophie politique, d'histoire des idées, lauréat en 2014 du prix Joseph Sayle de l'Académie des sciences morales et politiques pour votre essai sur René Guénon. René Guénon, l'essai que Mathieu Bocoté, qui était sur ce siège avant vous, avait lu et beaucoup apprécié. Il nous en a parlé. Et donc vous revenez avec, l'essai c'est une politique de l'esprit, hein, c'est ça ?
Tout à fait.
Voilà. Et vous revenez aujourd'hui avec Politique de Pasolini, l'insurrection des âmes aux éditions du Rouge et Noir. Et donc avec vous, on va parler d'un homme que beaucoup prétendent connaître, mais à vous lire que finalement on ne comprend pas vraiment. Paolo Pasolini qui était mort assassiné en 1975 et dont on célébrait l'année dernière le 50e anniversaire de sa mort. Poète, cinéaste, journaliste, prophète pour certains, récupéré par tous les bords, trahi par beaucoup d'autres bords également. Et donc votre livre est une tentative de retrouver le vrai Pasolini. Mais nous avons une tradition dans cette émission, celle de passer nos invités à la question.
Ne perdons pas notre temps.
Ils peuvent me tuer, je parlerai pas.
Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas.
C'est vous.
Ah, c'est comme ça. Nous avons les moyens de vous faire parler.
David Bisson, quel est le mot latin que vous placez en toutes circonstances, même pour commander une pizza ?
Ouh là là, vous commencez très, très fort, moi qui n'ai jamais fait de latin, à mon grand dam. Alors ça renvoie peut-être pas très directement à la pizza ou à la pizzeria, mais disons que la première locution latine qui me vient à l'esprit, ce serait « memento mori ».« Memento mori », puisque je viens de terminer l'ouvrage de Sénèque, consacré aux lettres à Lucilius, et qu'une grande partie de l'ouvrage est fondée sur cet exercice spirituel qui consiste à se rappeler que nous sommes des êtres mortels et que par conséquent nous ne sommes pas grand-chose ici-bas.
Quelle est la question que vos étudiants ne posent jamais et qui vous désespère ?
C'est pas une question qui me pose jamais, je dirais qui me la pose rarement ou pas directement. Et moi, c'est une question qui anime mes recherches en sciences politiques depuis très longtemps. C'est l'existence des liens intrinsèques qui existent entre le politique et le religieux. Et je dois constater malheureusement que nous sommes véritablement dans une société moderne, profane, où l'on étudie très rarement ces liens, alors même qu'il y a bien sûr la théologie politique, etc. Mais j'aimerais bien que les étudiants me posent plus souvent la question de savoir pourquoi ou à quoi sert véritablement le politique, le fait de vivre en commun, l'organisation de cette vie en commun, qui devrait permettre normalement, pour chacun d'entre nous, une forme d'élévation de l'âme, ou pour le moins, si je reprends Sénèque, une forme d'amélioration morale. Il ne me semble pas que ce soit tellement l'objectif des politiques poursuivies aujourd'hui.
En tout cas, c'est très bien caché. La chose que Pasolini détestait en 1975 et qui est devenue mainstream, aujourd'hui.
En 1975, Pasolini détestait beaucoup de choses. Étant donné qu'il a l'impression que sa vie lui échappait, que l'époque lui échappait également, dans le sens où il ne la comprenait plus du tout, et que le tournant chez lui a été en quelque sorte la période de mai 68, donc je dirais que la chose qu'il détestait le plus et qui est devenue un peu, ou même carrément la mode aujourd'hui, c'est les allures débraillées, les styles confus, bref, une espèce de manque de style, alors même que Pasolini, lui, était toujours tiré à quatre épingles, et qu'assurément, aujourd'hui, ce mélange de genre et de style l'insupporterait au plus haut point, et ça, j'en suis à peu près persuadé.
Le film de Pasolini qu'on ne peut pas montrer en amphi sans déclencher un incident diplomatique.
Alors, c'est toujours le même, même s'il y en a plusieurs, mais il y en a un qui est absolument immontrable dans les amphithéâtres, c'est Salo ou les 120 journées de Sodome. C'est sans doute, comme un commentateur l'avait dit, le film le plus éprouvant de l'histoire du cinéma. Il faut savoir que pour Pasolini, ce film était une véritable machine de guerre contre le cinéma et contre le culte des images. Et aujourd'hui, il reste cette machine de guerre difficilement montrable.
La phrase de Pasolini que la gauche s'approprie à tort et que la droite cite à contresens.
C'est très difficile. Je dirais... Bon, la citation qui me vient à l'esprit, parce que j'aime beaucoup cette citation de Pasolini, c'est la suivante. « Je suis un esprit d'amour qui de loin s'en revient au pays. » vous le devinerez que cette phrase n'est pas tellement politique, ni de droite, ni de gauche. Il y a une autre thématique, j'ai pas de citation qui me vient à l'esprit, mais il y a la thématique de la tradition et de la révolution. Parce qu'il y a quelque chose qui est assez extraordinaire chez Pasolini, c'est que c'est la tradition qui précipite la révolution et que c'est la révolution qui sauve la tradition. Et là, c'est très difficile à comprendre pour un militant, aussi bien qu'il soit de droite que de gauche, d'essayer de mêler ces deux, à la fois tradition et révolution.
Quelle est la plus grande imposture de la vie universitaire en France ?
Je ne vais pas être très original, mais je dirais que c'est Geoffroy de la Gannerie, puisque dans le monde universitaire, il y a toujours eu, il ne faut pas rêver, il y a toujours eu une intrication entre le militantisme politique et les recherches universitaires, voire parfois une confusion. Mais là, on n'est plus dans le croisement, la discussion, on est dans l'absorption de la recherche universitaire par le militantisme politique. Et moi qui aime beaucoup lire Émile Durkheim, Max Weber, Marcel Mauss, bref, les grandes écoles de sociologie, on peut même aller jusqu'à Pierre Bourdieu, je ne reconnais en rien la démarche sociologique, car je le rappelle, Geoffroy de la Gannerie est un sociologue qui enseigne à l'université.
Eh oui. Quel saint vous auriez aimé avoir comme directeur de thèse ?
Le premier saint qui me vient à l'esprit, c'est saint François d'Assise, mais je citerai plutôt...
Il ne devait pas être commode comme directeur de thèse.
Tout à fait. Mais je citerai plutôt un autre qui ne devait pas non plus être très commode, c'est saint Thomas d'Aquin, puisque j'ai eu la chance qu'on m'offre... je ne sais pas si c'est une chance, les 4 tomes de la Somme théologique. Et j'ai commencé à le lire et j'ai été absolument stupéfait et ravi de voir comment il exige chez saint Thomas d'Aquin une rationalité transparente, cristalline, qui n'empêche aucunement une ferveur mystique. Et cette conciliation entre le mystique et la rationalité est tellement rare. Et naturellement, saint Thomas d'Aquin aurait été un extraordinaire directeur de thèse, étant donné sa démarche aristotélicienne.
Si vous deviez changer de discipline demain, ce serait pour laquelle ?
Ah bah sans aucune hésitation, puisque j'aurais bien aimé, en vérité, il y a très longtemps déjà changer de discipline, je serais passé des sciences politiques aux sciences religieuses.
Et enfin, un livre que vous avez dans votre bibliothèque depuis longtemps, et que vous n'avez pas lu, et que vous lirez peut-être probablement pas.
Ah, je sais pas, j'espère pas que je ne le lirai jamais, mais en tous les cas, il est là, je le vois régulièrement. Je lis des articles sur ce livre, on m'en parle, c'est Robert Musil, L'homme sans qualité. Voilà, tout à fait. Alors, cet épais volume est bien dans ma bibliothèque, mais j'arrive pas à m'en saisir pour commencer la lecture.
Merci, David Bisson. Alors, revenons à votre livre politique de Pasolini aux éditions du Rouge et le Noir. Alors, je vous propose de commencer. Comme si nous ne connaissions pas Pasolini. Et puis ensuite, nous rentrerons dans votre thèse, ce qu'on a vu dans les questions qu'on vous a posées dans ce questionnaire, qu'il y a de grands écarts, ou en tout cas qui paraissent comme tels et qui ne le sont pas forcément. C'est vrai que tradition, révolution... Enfin, voilà. C'est un peu la thèse de votre livre. C'est comment Pasolini arrive à articuler beaucoup de choses qui paraissent contradictoires et qui en fait, ils ne le sont pas. Et si on ne comprend pas, on n'aura jamais rien compris à Pasolini. Mais commençons donc par Pasolini. Qui était-il, ce Pasolini ? À quelle époque il naît ? Dans quelle période de l'Italie ? Quelle région de l'Italie ?
Alors, il naît en 1922 à Bologne. Il est issu d'une famille de la petite moyenne bourgeoisie, étant entendu que son père est un officier de l'armée, qui provient d'une famille aristocratique mais désargentée. Et que sa mère est une institutrice qui, elle, provient d'une famille paysanne. De la région du Frioul, qui aura une importance absolument décisive dans l'itinéraire de Pasolini. Et donc, Pasolini, il ne vous l'aura pas échappé, est né en 1922, l'année de la marche sur Rome mussolinienne. Et donc, il a passé son enfance sous le régime fasciste. Et ce qui est étonnant, et ça ne recoupe pas forcément d'autres témoignages, Pasolini a toujours minoré cette vie fasciste. Dans le sens où, après coup, il a estimé que le fascisme n'avait en rien modifié les modes de vie et même l'âme des Italiens qui avaient continué à vivre comme ils le faisaient depuis des décennies, voire des siècles. Bref, que l'Italie était restée malgré tout une civilisation paysanne, agraire. Et donc, il a toujours minoré cette dimension totalitaire ou totalisante du fascisme que lui, en tous les cas, n'a pas eu l'impression d'avoir vécu. Alors, cela s'explique aussi par le fait que son père, lui, adhérait au fascisme, qu'il a toujours eu des relations extrêmement complexes avec son père, qu'il estimait faible, fragile, voire malade, et qu'il interprétait son adhésion au fascisme comme une sorte de compensation des faiblesses, ce surinvestissement dans une espèce de virilité, virilisme héroïque, militariste, etc., pour voiler en quelque sorte ses faiblesses.
Alors vous avez dit que le Frioul, sa région de naissance, est décisive pour comprendre son œuvre. Pourquoi ?
Alors il passe ses plus belles années, et c'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi qui l'interprète, dans la région du Frioul. Il y va très régulièrement pendant toute sa jeunesse, pendant les vacances, dans une maison qui appartenait à la famille de sa mère. Et puis pendant la Seconde Guerre mondiale, il se réfugie avec son frère et sa mère dans la région du Frioul. Il a une vingtaine d'années. Il continue de vivre au Frioul jusqu'en 1949. Alors pour lui, Frioul, ça correspond bien sûr au temps de la jeunesse, qui est plutôt une jeunesse heureuse. Mais c'est davantage encore. Je dirais que le Frioul, pour lui, c'est un paysage de l'âme. C'est un paysage de l'âme qui incruste en lui des images types, presque des images archétypes, qui s'enracinent dans une mémoire très profonde. Et c'est à partir de cette mémoire profonde que Pasolini va développer cet amour des civilisations archaïques, des civilisations primitives, qu'il semble retrouver justement dans ces vieilles civilisations paysannes, bercées de ce christianisme, qui est attaché justement au rythme des saisons, au cycle des natures. Et il en gardera toujours une très forte nostalgie. C'est même chez lui ce qu'on peut appeler la nostalgie du sacré. Et cette nostalgie du sacré, elle ne remonte pas dans le temps en arrière pour retrouver un âge d'or. Jamais. Il n'a pas cette dimension passéiste, ou pourrait-on dire réactionnaire. Cette nostalgie du sacré creuse plutôt en profondeur pour retrouver et recouvrer des états d'âme, des états de conscience. Et c'est ce qui fait le lien avec ce qu'il appelle ce sacré originaire. C'est cette dimension, justement, qui le rattache au monde paysan du Frioul, plus lointainement encore aux civilisations archaïques de la préhistoire, qui sont pour lui entièrement imprégnées de sacré. Alors un sacré qui était païen, un sacré panthéiste, et puis un sacré chrétien. Et là, il y a une ligne directrice, une ligne continue pour lui, où il existe un sacré un peu universel.
Alors, il y a le Frioul, on a compris, qui est... Si on ne comprend pas le Frioul, on ne comprend pas Pasolini. Mais il y a une autre... Alors, cette fois-ci, c'est pas une région, c'est une personne qui est centrale dans sa vie et dans ses écrits, c'est sa mère, Susanna.
Tout à fait.
Alors, qui était-elle et pourquoi est-elle... Alors, peut-être parce que c'est des relations avec son père compliquées, parce qu'homosexuel... Expliquez-nous.
Ah, vous posez là une excellente question, parce qu'il est très difficile, en vérité, d'avoir... des informations sur sa mère, soit par les biographes qui n'ont pas dit beaucoup de choses, si ce n'est qu'elle était effectivement très proche de son fils. Et même Pasolini, alors il a parlé évidemment de sa mère sous des formes très imagées, et il ne faut pas oublier qu'il a passé sa vie avec sa mère, quand il est obligé de quitter le Frioul dans des circonstances graves, il part avec sa mère, il laisse son père dans la région du Frioul. Lorsqu'il il a une certaine notoriété, il accueille sa mère et d'ailleurs une cousine avec qui il vivra jusqu'à la fin de sa vie. Alors, qu'est-ce que représente sa mère ? C'est difficile de le dire. Chez Pasolini, en tout cas...
Ou quel rôle joue-t-elle, en tout cas, chez l'artiste, chez l'écrivain, chez le poète, chez le cinéaste ?
Je dirais que sa mère est un appui au quotidien, au jour le jour. C'est celle qui le retrouve tous les jours, etc. C'est une forme d'inspiration et c'est peut-être un refuge, c'est-à-dire se retrouver près de sa mère. Mais en même temps, on ne peut pas dire qu'il y ait des relations un peu gnangnang avec sa mère. Ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, dans ses écrits, il le prouve. On n'a vraiment pas grand-chose sur sa mère, si ce n'est qu'il est très, très proche de la dimension maternelle. Alors, il faudrait renvoyer à la, à L'image que Pasolini se fait des femmes en règle générale, et c'est extrêmement compliqué puisque l'on retomberait sur un diptyque un peu contradictoire, hein, où on a la mère et la putain, la mère et la prostituée. Et la mère est seule qui donne le monde, qui donne la vie. Et donc elle a un rôle absolument central dans la mythologie pasolinienne.
Alors, Pasolini, poète, romancier, journaliste, cinéaste, comment il arrive, alors déjà par quoi il commence, et comment il arrive à l'écrit ?
Il commence très rapidement par l'écrit, c'est-à-dire qu'il s'essaye très jeune à plusieurs formes d'art, l'écriture, le dessin, la peinture. Il y a quelques peintures et quelques dessins qui ont été conservés de Pasolini, mais bien sûr la poésie, ce qui le travaille dès très jeune, c'est la langue. C'est vraiment la langue sous toutes ses formes. La langue poétique, la langue du romancier, la langue du cinéma, la langue journalistique. Bref, pour lui, très clairement, le principal médium, c'est la langue, c'est celui qui permet de faire la jonction entre l'intime et le public, hein, le monde extérieur et le monde intérieur, sous toutes ses formes. Et c'est vrai qu'il a essayé absolument tous les registres d'intervention. Et d'ailleurs, je dois le rappeler, avant son tournant communiste, c'est très clairement un esprit littéraire. C'est-à-dire qu'avant 1946, il ne s'intéresse absolument pas à la politique, mais uniquement à l'histoire littéraire. Et je rajoute son amour profond du dialecte frioulan, alors que lui-même ne parlait pas le frioulan.
Et à quel moment Pasolini, ou par quel art, Pasolini devient une personnalité publique, une personnalité suivie, une personnalité qui influence ou qui choque? Ça intervient à quel moment?
Il connaît la notoriété, en tous les cas, ce qui est certain, c'est à partir de la publication de son roman en 1958, Les Ragazzi, qui est un immense succès. Il connaît un succès critique et beaucoup plus d'estime, plus précieux en quelque sorte dans le champ intellectuel, c'est grâce à ses poésies. La poésie en forme de rose ou les cendres de Gramsci. Et il acquiert une notoriété internationale grâce au cinéma, et notamment avec l'évangile de saint Matthieu, qui est un succès très important.
Rémi, Carlu.
Et parmi ces trois disciplines, il avait une discipline de prédilection ou une qui mettait au sommet de sa hiérarchie personnelle?
Oui, alors il ne le disait pas, mais je crois que le fil directeur, le fil continu, ça reste la poésie.
Romaric, son garçon.
David Bisson, c'est les années 50-60, enfin en cinéma, on a l'impression qu'il y a un lien entre ce que Gainsbourg aurait appelé les arts majeurs, en fait, qui est beaucoup plus fort que ce qui s'est devenu aujourd'hui. C'est-à-dire que Fellini a des références de haute culture, enfin de culture classique. Hein, Louis Malle met en scène des textes de Robe Grillée, par exemple. C'est quelque chose d'évident, ou des textes d'écrivains importants. Pasolini est un poète dans la tradition finalement assez haute, qui va faire du cinéma comme un artiste majeur, entre guillemets, et pas comme un entertainer. Et ça, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette atmosphère, alors que s'ouvre bientôt, enfin que c'est ouvert hier, d'ailleurs, le Festival de Cannes, est-ce qu'on n'a pas changé complètement de régime par rapport au cinéma entre ces années-là et aujourd'hui?
Complètement. Je crois qu'il a donné, à mon sens, la plus belle définition du cinéma. Le cinéma, c'est écrire sur du papier qui brûle. Et tous ces films sont très référencés. Oedipe Roy renvoie à Freud, à Jung. Mama Roma, Catone renvoie à des écrivains plus populaires. Salo, Les 120 jours de Sodome renvoie bien sûr au Marquis de Sade. Pour lui, le cinéma est un art majeur, comme vous le précisez bien, parce qu'il a pour but, justement, et c'est toujours ce que recherche, il ne faut jamais l'oublier, Pasolini, quel que soit l'art avec lequel il s'exprime, c'est toujours de rechercher le sacré, de reprendre contact avec cette réalité qui lui échappe et qui lui semble aussi lui échapper, qui semble échapper au monde moderne. Et le cinéma est un médium. C'est vraiment un médium, presque un opérateur magique, qui permet d'accéder à cette réalité. Alors, il a une façon de faire du cinéma très, très particulière. Alors, je ne me suis pas étendu dans l'ouvrage, parce que moi, je ne suis pas du tout un spécialiste du cinéma. Mais c'est pourquoi ces films peuvent paraître un petit peu arides. C'est-à-dire qu'il les remonte entièrement après avoir filmé. Il rajoute le son les dialogues seulement après avoir fait le montage, ce qui donne un sentiment un petit peu d'irréalité, ou on pourrait presque dire de surréalité à son cinéma, mais qui le rend particulièrement âpre. Alors évidemment, ça n'a absolument rien à voir avec le cinéma qui n'est pas un art aujourd'hui. C'est une marchandise de l'industrie du divertissement, ni plus ni moins. Et on en a encore la preuve avec l'ouverture du Festival de Cannes. Qu'est-ce que le Festival de Cannes a à nous dire aujourd'hui en termes artistiques ? Absolument rien. Où est-ce que l'on peut puiser du sacré, du secret, du mystère dans le cinéma qui existe aujourd'hui ? Rien. On y cherche du divertissement, du plaisir, cette espèce de narcissisme inversé où on se retrouve dans des pseudo-histoires. Bref, on est à des années-lumière de Pasolini. Et s'il était vivant, ça n'a pas beaucoup de sens de dire ça, mais évidemment, mais il le vomirait, ce cinéma. Il vomirait. S'il a fait « Salou, les 120 jours de Sodome », c'est pour dire que c'est... Il disait en quelque sorte que cet art, pour lui, dans le système capitaliste de divertissement, n'est plus opérant, tout simplement.
Mais justement, c'est ça qui est intéressant. On prend trois films, peut-être les trois plus connus. L'Évangile selon saint Matthieu, Salo évidemment, et Théorème. Quel est le lien, le fil conducteur ? Est-ce que c'est alors, parce qu'on dit que le cinéma, pour lui, est un médium pour comprendre ou essayer de percer le mystère, le sacré. Qu'est-ce qu'il y a de sacré dans Salo ? Quel est le lien entre ces trois films ? Alors, sur la forme, assez proche. Je crois que Salo est un peu différent. Mais au thème, vraiment, pour le coup, qui n'ont absolument rien à voir.
Ce qui est terrible dans Salo, c'est justement de dire qu'il n'y a plus rien de sacré. Que dans la société capitaliste moderne, il n'y a plus de sacré et de le démontrer. Faut jamais oublier, le film a été très mal compris à sa sortie, puisque comme l'histoire se déroule à Salo, l'empire, le régime crépusculaire du fascisme, certains ont pu croire à un moment donné que c'était un film qui critiquait le fascisme. Quelle erreur, c'est un film qui critique le capitalisme. Et Pasolini fait l'analogie entre l'asservissement sexuel des litanies de Sade et l'arraisonnement des corps par les logiques du capital. Et là, il nous dit des choses mais extrêmement précieuses sur le capitalisme. Pour lui, le capitalisme, c'est la fin des générations, c'est le régime dans lequel il n'y a plus de possibilité de transmission. Il n'y a plus de père, il n'y a plus de passé, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus d'avenir. On est dans un espèce d'auto-engendrement du capital. Alors, il va même plus loin, c'est pourquoi c'est un film très très dur, c'est qu'il va dire plus loin que ce monde moderne entièrement profane et laïque va jusqu'à parodier le sacré, jusqu'à l'inverser. Et il parle de contre-consécration. Ou là, pardonnez mes propos, mais c'est lui qui le dit, hein, où la merde devient la mère et le con devient l'anus. Pour lui, la société est foncièrement mauvaise, où il faut toujours ingérer, digérer, déféquer des produits de marchandises. Alors évidemment, on est à des années-lumière de l'Évangile selon saint Matthieu, mais l'Évangile selon saint Matthieu est aussi un film extraordinaire, puisque pour Pasolini, l'Évangile, quels que soient d'ailleurs les apôtres, là il a pris saint Matthieu, a une telle force poétique qu'on peut le dire à n'importe quelle époque, à n'importe quel lieu, le texte est opérant. Il est universel. C'est pourquoi il transpose, il reprend des parties de la Bible. Il avait un autre scénario qui aurait été fascinant s'il avait eu le temps de le filmer, c'était sur saint Paul cette fois-ci. Il voulait transposer le texte de la Bible dans le New York des années 60. Et sans en changer une ligne, bien entendu, pour voir comment le texte était encore opérant. Et puis Théorème, c'est un film magnifique puisqu'il pose une seule question dans le film. Comment, dans une existence foncièrement enfoncée là, dans le confort bourgeois, est-il encore possible d'entendre le souffle de l'esprit ? Est-ce qu'on peut encore, dans un monde entièrement matérialisé, entendre la voix de Dieu ?
Nous sommes toujours, vous êtes toujours, et nous sommes donc avec vous, toujours dans Restons Courtois, l'émission de débat et donc de conversation de Radio Courtoisie, que je rappelle chaque jour, de 17h30 à 19h30, et donc nous recevons David Bisson pour son nouveau livre politique de Pasolini, L'insurrection des âmes, et donc on se plonge dans l'œuvre, la vie, le cerveau complexe, torturé, et fascinant et beau en même temps, de Pasolini. Mais vous savez que si on peut parler de Pasolini librement, en essayant de décrypter son œuvre et de parler de Salo en disant que c'est un film qu'il faut regarder même si on se fait mal, c'est parce que vous êtes sur une radio qui ne dépend que de ses auditeurs, donc de vous. Donc écoutez ce petit message, et on se retrouve tout de suite après.
Radio Courtoisie, libre, sans publicité, sans subvention, 1,5 million d'auditeurs par semaine.
des milliers d'écoutes en ligne. De 13 ans à 99 ans, vous nous écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en ligne. Désormais, les podcasts de Radio Courtoisie, les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous gratuitement. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Restons courtois, Arthur de Vatrigan.
Vous êtes en effet toujours dans Restons courtois, l'émission de conversation et de débat de Radio Courtoisie. Nous avons David Bisson qui sort Politique de Pasolini aux éditions des Rouges et Noirs, l'insurrection des âmes. Mais vous savez qu'également à 19h, c'est la chronique de Romaric Sangars. On ne va pas être très loin, cher Romaric, du sujet dont nous parlons, parce que vous n'étiez pas hier sur la croisette pour l'ouverture du Festival de Cannes, donc si on a compris que Pasolini aurait vomi.
Non, cher Arthur, j'étais à Paris, en train de siroter un gin tonic et de m'interroger sur la notion de parité dans l'art, puisque c'est l'un des grands mots d'ordre du festival. On le lit sur la page d'accueil du festival, pour la liberté du site du festival, pour la liberté d'expression, la parité, la diversité. Bon, la liberté d'expression, dans le milieu du cinéma français, c'est le droit de proférer tous les lieux communs de gauche possibles en smoking. On n'a jamais vu quelqu'un, ces dernières années, dans ces raouts, user différemment de la liberté d'expression. La diversité, pourquoi pas? Au fond, l'intérêt de la seconde patrie du cinéma face au rouleau compresseur hollywoodien serait de défendre des approches différentes depuis les autres parties du monde. On a donc ouvert le 79e Festival de Cannes en honorant Peter Jackson, le réalisateur néo-zélandais de la trilogie du Seigneur des Anneaux, sympathique divertissement grand public au succès mondial, et puis entonner une reprise des Beatles, les messies de la pop. Je ne l'ai pas senti très aiguiser la notion de la diversité. Restez la parité, et là, c'est plus facile à tenir comme engagement puisque c'est mathématique. Le personnel du festival est constitué de 54% de femmes, le comité de sélection de 5 femmes pour 5 hommes, et les jurys également équitablement composés. Si l'on voulait appliquer la même règle dans le milieu éditorial, il faudrait sans doute embaucher beaucoup d'hommes. Enfin, j'ai compris, en tout cas, quelque chose. La parité est une vertu pratique à mettre en œuvre. Davantage que l'intelligence et l'audace, par exemple, il suffit de savoir compter. Et il est assez naturel qu'on s'y applique en priorité.
Vous ne trouviez pas qu'il y avait une sous-représentation des femmes dans le cinéma ? Parce que pour ma part, ainsi que, je pense, Rémi Carlu, on était offusqués de cette situation.
Je le sais, cher Arthur, vous m'avez suffisamment entretenu des soirées entières de cette injustice à laquelle vous êtes particulièrement sensible. Figurez-vous qu'elle ne m'est pas indifférente et que j'en veux beaucoup aux progressistes. En effet, les sectateurs du dieu progrès ont d'abord été violemment misogynes, puisqu'ils avançaient la raison sèche et brutale contre la sensibilité et la mystique conçues comme des attributs féminins. Et moi aussi, au fond, devant le Panthéon, ce temple des progressistes au sommet de la montagne Sainte-Geneviève, je suis étonné de ce qu'il fut exclusivement réservé aux grands hommes. À son origine, quand l'église Saint-Étienne-du-Mont, qui se dresse non loin dans une rivalité religieuse que Philippe Muret avait magistralement mise en scène dans l'un de ses plus célèbres essais, comporte le tombeau d'une femme, Geneviève de Paris, justement, comme relique essentielle, et que la parité est d'une manière générale à peu près assumée dans les modèles que nous a donné notre Sainte Mère l'Église, laquelle affirme par ailleurs que le plus grand parmi les hommes est une femme, Marie. Ce qui évoque aussi, chez moi, le premier des poètes français, puisque c'est également une femme, mais qu'elle s'appelait aussi Marie, Marie de France, pour être exact, qui pour la première fois chanta dans notre langue. Aussi, la sous-représentation des femmes, c'est un peu comme l'absence de congé pour les pauvres, ce sont les progressistes qui l'ont mise en œuvre, puis ce sont les progressistes qui ont tenté d'y remédier en s'en attribuant le mérite. La manœuvre est grossière, mais elle fait toujours son effet.
Voici des arguments qui seront en faveur de la parité, alors, cher Romaric.
Jusqu'à un certain point, cher Arthur, de là à faire de la parité une exigence comptable de la représentation, on assiste à un enjambement intellectuel pour le moins exagéré. Entre le fait de prendre autant en considération le talent féminin que le talent masculin, et le fait d'établir qu'ils doivent être, par décret, résolument symétriques, on est passé d'un souci du réel pris dans sa globalité à une règle abstraite se substituant au réel et au talent. Et une règle qui n'est que le revers de celle implicite qu'on avait prétendu combattre, puisque la misogynie, l'attente qui lui préexistait, stipulait par règle abstraite que le talent féminin ne pouvait équivaloir au talent masculin. L'égalitarisme qui s'est désormais imposé stipule qu'il lui équivaut toujours exactement, et que c'est en fonction de ce dogme qu'il faut représenter les choses. Résultat, on a forcément tendance à surestimer le talent féminin pour avoir le bon compte au bout.
Quelle réalisatrice française, selon vous, serait bénéficiaire d'une telle surestimation?
Eh bien, cher Arthur, toutes celles dont j'ai vu des films dernièrement. Rebecca Zlotowski, Par exemple, découverte avec Belle Épine et Grand Central, dont j'ai vu il y a 2 semaines Vie privée, un scénario délirant, inutilement compliqué, totalement artificiel, où l'on sent très bien que les 3 femmes qui s'y sont associées, dont Zotowski, n'ont jamais voulu lâcher une idée débile ou privilégier une piste intéressante. Le choc d'ego n'a pu produire aucune étincelle. La réalisatrice est membre du collectif 50-50, qui, comme son nom le suggère, rassemble des femmes habiles à diviser par deux. Mais au lieu de s'appliquer à compter, elle ferait décidément bien apprendre à écrire. Je pense aussi à Claire Denis, dont j'ai vu la semaine dernière Stars at Noon, Grand Prix du Festival de Cannes en 2022, avec la splendide Margaret Qualley, mais à part la prestation de celle-ci en Adjani américaine époque L'été meurtrier, eh bien Claire Denis expose sa fascination pour la passion en contexte hostile, en pensant que ce lieu commun romantique suffit, même dépourvu d'indices, d'arguments. Les amants ignorent totalement qui ils sont réellement et la nature de l'obstacle qu'ils seraient censés surmonter, et qu'ils ne surmontent pas, par conséquent, ce qui n'a plus rien de déchirant, vu que le lien amoureux est réduit à son minimum chimique, si j'ose dire, s'effiloche dans une lubie passagère qui ne mérite décidément pas de se prendre une balle. Mais enfin, Qualley avait un minimum d'épaisseur dans ce film, alors que son personnage est totalement vide dans The Substance de Coralie Farja, prix du scénario au Festival de Cannes 2024. Ce remix de Dorian Gray à l'ère d'Amazon et des protocoles de vaccination, non seulement est du niveau d'un Disney raté pour ados, mais de surcroît, enchaîne les incohérences et rate complètement son enjeu. En effet, on ne voit pas l'intérêt dans cette histoire où la beauté n'a de valeur que fonctionnelle, qu'en tant que moyen de subjuguer les hommes, de s'obstiner à la préserver à tout prix, alors même que les hommes à subjuguer sont tous des porcs visqueux, stupides et amoureux. À ce compte-là, autant vieillir moche avec son chat et des bons livres. Bref, cette politique complaisante à l'égard des artistes féminines produit ce que produit inévitablement toute politique complaisante, un surplus de médiocrité. Mais j'ai néanmoins une bonne nouvelle pour nos auditeurs. Moi aussi, je sais compter quand je veux. Et si vous m'avez suivi, chers auditeurs, en vous épargnant ces 3 films, vous pourrez économiser 6h40, ce qui laisse beaucoup de temps pour prolonger l'apéritif et savourer des gin toniques.
Merci Romaric. Qu'est-ce qu'aurait pensé Pasolini de la parité obligatoire au cinéma? Tiens, on serait bien amusé, à mon avis.
Ben, il aurait été évidemment contre. Ça n'a à peu près aucun sens d'appliquer de telles catégories à un cinéma si on le considère comme un art majeur, évidemment.
Exactement. Alors, continuons sur Pasolini. On a parlé de ses œuvres, de ses arts, la manière dont il voyait l'utilité, en tout cas lui, en tant qu'artiste, et puis en tant qu'artiste qui veut parler à un public. Mais parlons aussi de lui, vous l'avez dit, il a eu un tournant communiste, artiste homosexuel, mais en même temps fasciné par le catholicisme. On a l'impression d'avoir plein de... C'est un personnage traversé de vents contraires et de vents qui nous paraissent complètement irréconciliables, et pourtant non.
Non, alors, à certains égards, quand même, il aimait à rappeler ses contradictions scandaleuses. Évidemment, il comprenait que surtout, faut pas oublier que Pasolini est intervenu vraiment de façon toujours très fragmentaire, plurielle, dans une multitude d'arts. Donc, la difficulté pour le livre, c'était essayer justement de trouver une unité à tout ça. Et l'unité, je l'ai trouvée dans son rapport au sacré, qui me semble traverser toute l'œuvre. Pour le reste, non, il est parfois effectivement difficile à suivre, mais si on prend l'exemple qui paraît évidemment être une contradiction, il a essayé. Alors, il a clairement adhéré au Parti communiste en 1946, avant d'en être exclu en 1949 pour des affaires de mœurs, pour dire qu'à l'époque, le Parti communiste n'était pas très en faveur de tout... les libérations sexuelles en tout genre. Bon, bref, peu importe. Mais par contre, il est resté attaché, il est resté loyal vis-à-vis du Parti communiste et il l'a répété jusqu'à la fin de sa vie, ce qui est d'autant plus surprenant au vu des positions qu'il prenait par ailleurs. Et un de ses dadas, donc la première chose, mais ça quasiment dès le départ, par exemple, il n'a jamais cru dans le grand soir révolutionnaire. Lui, c'est Gramsci plutôt que Marx. Hein. Et Gramsci, c'est les hommes ressemblent à ce qu'ils vivent. Et lorsqu'ils vivent dans une civilisation de la marchandise, ils deviennent évidemment des consommateurs et non pas des révolutionnaires. Ou ils deviennent des bourgeois, mais sûrement pas des révolutionnaires. Le mode de vie est beaucoup plus important que la dialectique marxiste. Simone Veil l'avait compris, et puis bien d'autres, finalement. Et alors, voilà ce qu'il a essayé de dire au Parti communiste et ce qu'il a... Dans un journal avec qui il échangeait beaucoup avec les lecteurs, il a essayé de rapprocher le christianisme du communisme. Et il le disait à son lectorat qui était des militants communistes. Et les militants communistes, mais il dit, mais mon pauvre Pasolini, nous, quand quelqu'un nous file une gifle, on ne tend pas l'autre joue. On fait la révolution. Et donc forcément, Pasolini était toujours un petit peu, pas en désaccord, mais toujours un petit peu à côté. Mais il a cherché, puis il est resté attaché au Parti communiste, alors même que, à partir des années 68-70, il tient des positions parfois très conservatrices.
Rémi Carlu.
Oui, on assiste aujourd'hui à une grande confusion assez générale entre art et politique. Beaucoup de pseudo-artistes utilisent leur art pour faire passer en permanence des messages politiques, au point que ça cesse souvent d'être de l'art pour devenir des messages politiques. Comment, lui, Pasolini, en tant que communiste, envisageait-il ce rapport entre la politique et son art ? À quel point son idéologie vient cannibaliser son œuvre ? Au contraire, est-ce qu'il pose des distinctions ?
Oui, très bien. Il y a une dialectique très, très forte chez Pasolini entre l'idéologie et la passion. La passion de la vie et l'idéologie. L'idéologie qui va encadrer, représenter le monde à travers des concepts et des catégories. Et puis la passion de la vie qui, elle, va s'engouffrer dans la vie en mouvement. Très clairement, Pasolini n'est absolument pas idéologique. Alors, il y a un documentaire qui s'appelle « La rabbia », la rage qu'il a fait, je ne sais plus, dans les années, début des années 60, où là, évidemment, on peut dire qu'il y a une espèce de volonté de faire un art pseudo-communiste. Mais il s'est toujours dégagé par la suite. Hein, et puis, dans tous ses écrits, il ne veut absolument pas relier l'idéologie à l'art, quel qu'il soit, absolument pas. Et il sera le premier à moquer, mais même beaucoup plus qu'à moquer, à vilipender ces artistes ou ces révolutionnaires avant-gardistes en mai 68. C'est la grande rupture entre Pasolini et tout le monde de la gauche, qui était déjà un peu à l'époque bien pensante, puisque les positions que tient Pasolini, la gauche ne les comprend absolument pas et surtout ne cherche pas à les comprendre. Et il est voué très rapidement aux hégémonies. Et lui, il s'en attriste parce qu'il voit ses amis s'éloigner. Et il tient ferme puisqu'il pense qu'évidemment, la critique de la société capitaliste moderne passe aussi par une critique des mirages, parfois communistes, tels que la révolution, etc.
Quelle est sa rupture en 68 ? Qu'est-ce qu'il reproche à ses anciens camarades, concrètement ?
Alors, en 1968, il a presque atteint le sommet de sa carrière et il sent un peu que le monde est en train de lui échapper et surtout que l'époque est en train de lui échapper dans le sens où non seulement il ne la comprend pas, mais il commence à la détester. Et là arrive ce moment, la révolte de mai 68, et certains étudiants se tournent vers cette figure très connue, Pasolini, toujours un peu marginale, véhémente, pour se dire que peut-être lui pourrait faire figure de père symbolique de la révolution à venir. Et là, contre toute attente, Pasolini, dans le cours d'un article, il n'a pas jugé les conséquences qu'allait avoir cet article, et un article fameux, il se moque non seulement des étudiants qui se révoltent en mai 68, mais il les tourne en dérision, et là, le péché absolu, alors même que l'opinion publique était plutôt en soutien des étudiants de mai 68, il dit détester ces étudiants bourgeois et leur fausse radicalité, qui ne sont que des fils à papa, qui s'apprêtent tout simplement à revêtir les habits du nouveau pouvoir. Et il leur préfère ceux qui sont de l'autre côté de la barricade, les policiers, qui la plupart d'entre eux sont des fils d'ouvriers et de paysans. Que n'a-t-il pas dit ? Là, tout le monde lui est tombé dessus. Et il n'est pas revenu sur ses mots, il a dit non, c'est une fausse révolution, ils veulent faire une révolution qui est entièrement manipulée par le système, ils se gargarisent de radicalité qui n'existe pas. Alors, quand on voit aujourd'hui la radicalité qui existe à gauche, ça dit que ça n'a pas beaucoup changé.
Romaric, Sanger.
Oui, je tiens à dire à nos auditeurs que votre livre est tout à fait passionnant, Charles-David Bisson, parce que c'est vrai que Pasolini, en l'ayant lu et en ayant vu ses films, on voit une grande puissance, un grand souffle, un grand écart aussi permanent, et qu'il peut apparaître, notamment par ses prises de position, comme vous venez déjà de nous le présenter un peu, comme un peu un monstre, en tout cas comme un inclassable, où on ne comprend pas forcément ses tensions, sa démarche. Et vous, pour trouver cette cohérence, votre livre est une espèce d'enquête comme ça, d'une très grande intelligence et d'une très grande finesse, qui va chercher la cohérence profonde de sa démarche et de son attitude. Donc c'est pour ça que je conseille à nos auditeurs de se pencher sur le sujet. C'est comme vraiment une enquête et une élucidation en partie du mystère Pasolini. Et Pasolini m'a aussi fait penser, alors c'est peut-être mes marottes à moi, mais il m'a fait penser à Drieu La Rochelle d'une certaine manière. Pourquoi ? Parce que Drieu avait un côté révolutionnaire et réactionnaire, qu'il a une fin pitoyable, pathétique, sordide, d'une autre manière que Pasolini, mais enfin, il meurt dans la honte et dans la... voilà. Et qu'on peut ne pas comprendre les changements permanents de situation, de rapport au monde de Drieu, qui est d'abord plutôt démocrate, radical, puis un peu communiste, puis fasciste, puis collabo, puis qui souhaite la victoire de l'URSS. Enfin, tout ça peut paraître délirant. Et en même temps, qui a la recherche d'un sacré, qui n'arrive pas à retrouver le sacré tel qu'il est incarné par l'Église, sauf par moment, mais qui recherche d'un sacré plus puissant, plus véritable, au point de s'intéresser au groupe de Kaiwa et Lyris, etc. Enfin voilà, là, il y a quelque chose qui est vraiment lié. Et puis, moi, ce qui m'a semblé qu'on voit vraiment dans votre livre et que je trouve un peu aussi chez Drieu, c'est le souci avant tout de la vie. Il y a une pulsion vitale chez Drieu qui est que finalement, la question idéologique devient un peu secondaire. Ce ne sont pas des gens qui cherchent absolument à ce que le monde devienne communiste ou fasciste ou quoi que ce soit. Ce ne sont que des idéologies au service passagère, éphémère, substituable, et qui sont au service d'une actualisation de la tradition et de la vie elles-mêmes insaisissables, d'où leur retournement ou leurs ambiguïtés, qui témoignent en fait du souci profond. Je trouve que c'est ça qu'on voit d'ailleurs, la cohérence la plus intime de Pasolini, c'est à la fois le souci du sacré et le souci de la vie. Donc voilà, parce que j'avais à dire sur votre livre, mais je vous laisse me dire ce que vous en pensez.
Alors là, je suis entièrement d'accord avec vous, puis ça me rappelle que Drieu La Rochelle a découvert à la fin de sa vie, donc je crois que dans son journal 1942, il a découvert René Guénon. Et il a découvert ce qu'était le concept de tradition selon René Guénon. Et il a dit, si tout était à refaire, je commencerais par travailler sur les religions, puisque la vérité est là. Et donc il passe ses deux dernières années de sa vie en multipliant les lectures religieuses. Je rappelle que Pasolini dit aussi qu'il faut s'appuyer sur ce matériau extraordinaire qui sont tous les textes religieux qui ont été produits par les saints, les mystiques, les pères de l'Église, etc. Et que là, on a un matériau qui permet de perpétuer, de préserver l'âme et puis aussi de la comprendre. J'ai vraiment voulu essayer de montrer que Pasolini était un petit peu un mystique à l'état sauvage, un initié à l'état brut, un espèce d'aventurier de l'absolu, un peu comme... Georges Bataille, mais ça m'est venu après, je le rapprocherai assez volontiers de François Augiras, mais aussi de Pierre Drieu La Rochelle. Alors vous avez tout dit, chez Pasolini, il y a d'un côté l'idéologie, le monde de la représentation, le système qui nous détermine, et puis il y a la vie. Et la vie, elle va puiser ses racines jusqu'dans l'origine indéterminée des âmes, là où vraiment s'activent les forces de la création et de la destruction. Et vous avez fait référence au collège de sociologie. J'ai rapproché aussi Kaiwa, Lyris et Bataille de Pasolini, quand bien même ils n'ont eu absolument aucune relation, dans cette volonté de manipuler les réserves de sacré qui étaient encore présentes dans la société et qui gisaient au fond de la communauté.
Un message à un auditeur qui a priori est ravi. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous parlez de lui, ce qui prouve l'excellence de votre radio. Surtout ce qui prouve l'excellence de notre invité, qui en parle avec, en effet, qui éclaire...
Et de nos auditeurs aussi.
Et de nos auditeurs, bien entendu, mais qui éclaire en effet sur l'œuvre de Pasolini, qui est beaucoup étudiée, on en parle beaucoup, il y a beaucoup de références, alors beaucoup s'en réfèrent sans l'avoir lu ou sans avoir vu ses films, mais c'est vrai que le sacré est souvent absent chez les commentateurs et les analystes de Pasolini.
Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai envisagé, que j'ai fait ce livre. Hein. S'il n'y avait rien eu à dire, je ne me serais pas lancé dans cette aventure qui a quand même été longue et éprouvante, parce qu'il faut se taper, excusez-moi du terme, les films de Pasolini. Bon, moi, ces romans, je ne les trouve pas extraordinaires, ces poésies sont majestueuses, mais bon, il y a quand même un petit peu de tri à faire dans l'œuvre tellement intense de Pasolini. Et j'ai été surpris que, en fait, tout le monde... Beaucoup de monde connaissent Pasolini, en parle à travers son cinéma, à travers sa dimension sulfureuse. Mais mis à part ses biographes et certains spécialistes du cinéma qui l'ont beaucoup travaillé, il n'y a pas grand-chose en fait sur la dimension politique, spirituelle, mystique de Pasolini. Il fait partie de ces auteurs qu'on aime à citer et qui sont en vérité assez peu travaillés. J'ai quasiment tombé sur aucune thèse. Alors, si un petit peu de thèse de cinéma sur Pasolini, mais mis à part des thèses sur le cinéma, il n'y a rien eu qui a été fait sur Pasolini. Donc Pasolini, ce sont des auteurs qui sont très cités, mais finalement peu lus.
Est-ce que ce n'est pas parce que notre époque est incompatible avec les mystiques? On ne sait pas ce qu'on ne comprend pas, les mystiques.
Oui, alors ça fait sûrement partie de la réponse. Alors ce qui est presque paradoxal, c'est que cette époque est en demande pourtant de spiritualité, de transcendance, ou de quelque chose qui dépasse la matérialité et même l'humanité de l'homme. Mais que malheureusement, ça a aussi l'impression que cette aspiration est également détournée par des petits entrepreneurs du religieux, parfois pas toujours pris en compte par les grandes institutions religieuses, qui est plus pour cause, autre chose à faire. Pasolini, là aussi, c'est un de ses paradoxes, hein, continuait à croire dans l'institution de l'Église, alors même qu'il la critiquait très fortement. Mais il disait, dans ce monde où tout est en train de se liquéfier, il y avait deux institutions qui demeuraient solides pour lui, c'était l'Église et le Parti communiste.
Mais justement, c'était ma question, c'est quelle était la relation de Pasolini avec l'institution, d'autant plus qu'on sait, alors peut-être encore plus en Italie, mais que ce qui concerne l'art, l'Église n'hésitait pas à donner son avis et même interdire deux, trois des films, tout simplement, et que, bon, on imagine leur réaction sur Salo. Quelle était justement cette relation, surtout du point de vue de l'Église? Comment est-ce qu'on sait comment l'Église percevait Pasolini?
L'Église a beaucoup, beaucoup porté plainte contre les livres de Pasolini, contre surtout les films de Pasolini. Et en même temps, de façon très, très étonnante, elle lui a accordé des prix aussi. Il faut savoir que Pasolini a eu un prix de l'Église pour son film Théorème, qui pourtant n'apparaît pas explicitement chrétien au premier regard. Et c'est le Vatican qui a dit quand même, non, on peut pas donner un film aussi complexe où on ne comprend pas tellement le message. Et dans l'Évangile de Saint Matthieu, très clairement, Pasolini a voulu un peu secouer la communauté chrétienne pour qu'elle revienne un petit peu à ses origines. Il a critiqué très durement l'Église, puisque pour lui, l'Église s'est compromis avec le pouvoir et le progrès, alors même qu'elle était l'institution qui était rattachée au peuple, aux paysans, au monde pauvre, et qui était attachée à cette spiritualité de la pauvreté. Et il continuait d'espérer qu'un jour, cette grande institution retrouve elle-même la pauvreté, pour accoucher un petit peu d'une église des catacombes, d'une église des plus pauvres, d'une église des petits, des minorités, et qui soit là comme un ferment de résistance face au monde moderne qui envahit absolument tout.
Romaric Sangarce, peut-être pour une dernière question.
Oui, cet éloge du petit peuple, des paysans, on la retrouve chez Malaparte aussi comme écrivain, donc ça donne l'impression, quand on le voit chez Pasolini ou chez Malaparte, qu'il y a en Italie un miracle de préservation d'un sacré et d'un certain petit peuple qu'il n'y a pas eu dans les autres pays occidentaux, est-ce vrai?
Oui, alors je suis aussi assez fasciné par le rapport que Curzio Malaparte a au peuple. Cette espèce de ce diplomate qui a passé sa vie dans les ambassades, dans des merveilleux repas, dans des circonstances absolument tragiques, continuait toujours de se référer au peuple. Ah, il y a une petite différence, c'est que Pasolini a beaucoup aimé, a sûrement un peu idéalisé le peuple paysan du Frioul. Il n'avait pas beaucoup, alors c'est pas de l'estime, il n'avait pas beaucoup d'amour pour le peuple rangé dans des catégories comme par exemple la classe ouvrière. Il ne parle jamais de la classe ouvrière, pour lui ça n'existe pas. Et il finit par s'en remettre, comme le peuple paysan disparaît à travers de multiples catégories, les bourgeois, etc. Lui finit par s'en remettre, Marx aurait dit, au lumpen prolétariat, c'est-à-dire au peuple des marginalités. La petite pègre, les prostituées, c'est ce peuple-là qui l'intéresse, le peuple qu'il a rencontré quand il est arrivé à Rome et qu'il a été habité dans les bidonvilles et qu'il a côtoyé. Et il a toujours été un petit peu fasciné par ce peuple des marges.
Bah écoutez, si, chers auditeurs, si vous voulez tout comprendre de Pasolini et lire, peut-être voir ce qui... la meilleure analyse de Pasolini, en tout cas celle dont on parle peu, on peut que vous conseiller, recommander d'acheter le livre de David Bisson, Politique de Pasolini, L'insurrection des âmes, aux éditions du Rouge et le Noir. Je vous rappelle également le livre de Mathieu Bock-Côté, qui est ici, Le pessimiste joyeux, vous l'aurez compris, il est très pessimiste, mais très joyeux en même temps, parce que s'il se lève et qu'il a 3 repas par jour garantis, il sera content. Et enfin, le dernier numéro de L'Incorrect, qui est ici, voilà, hop, vous trouvez chez votre marchand de journaux. Donc Curtis Yarvin, gourou trumpiste ou vrai prophète, ça aurait été amusant de faire un débat Curtis Yarvin et Pasolini. Je pense que ça aurait été assez explosif. En tout cas, bon, je pense qu'à mon avis que Pasolini l'aurait écartelé façon... éparpillé, pardon, façon puzzle. Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'aurait pensé Pasolini de notre époque de l'IA futuriste, technologique ? Heureusement qu'il est parti. Donc, et c'est peut-être d'ailleurs ça qui fait qu'il est devenu aussi un mythe. C'est, on n'a pas le temps d'en parler malheureusement, mais son assassinat en 1975, où il reste encore des zones d'ombre à éclaircir. Donc, chers amis, nous on se retrouve la semaine prochaine. Demain, c'est Marc Hainaut de Valeurs Actuelles et Marc Baudrier qui prendra le micro vendredi de Boulevard Voltaire. Je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt.
Ça suffit maintenant.